Abordons maintenant le délicat sujet de la relation à l'argent et à la richesse. L'argent est au centre de la vie économique. Il est un fantastique activateur de rencontres, d'échanges et de dépassement de soi. Il représente aussi un risque de perdition lorsqu'il obsède les esprits ou est érigé en idole. Au sens de la parabole des talents, l'argent est un talent qui nous est confié. Être matériellement riche ne pose pas de problème en soi. Ce qui compte, c'est dans quel état d'esprit et de quelle manière on utilise son argent. Est-ce pour amasser toujours plus de richesses pour soi? Et chacun sait à quel point l'argent va à l'argent? Ou pour le faire circuler dans le souci du bien commun et, si possible, pour l'épanouissement et la croissance spirituelle des personnes qui en bénéficient. On raconte l'anecdote suivante. Un riche industriel prend quelques jours de vacances sur une île magnifique au milieu du Pacifique. Il se repose sous les cocotiers sur une belle plage de sable fin. Il aperçoit un autochtone qui pêche et lance tranquillement sa ligne dans l'eau. Il en ressort presque immédiatement un magnifique poisson. L'opération se répète à plusieurs reprises et notre industriel est fasciné par ce qui ressemble à une pêche miraculeuse. Il se précipite vers l'homme et lui dit « Vous vous rendez compte du trésor que vous avez là? Vous pourriez embaucher du monde, créer une pêcherie industrielle, utiliser des bateaux équipés de congélateurs et organiser un vaste réseau de ventes en Europe et en Amérique. À quoi tout cela servirait-il ? Demande l'autochtone un peu surpris. Eh bien, je sais pas, ça vous permettrait par exemple de vous offrir de belles vacances sur une île magnifique au milieu du Pacifique. Cette petite histoire témoigne des déviations de la quête d'argent pour l'argent. Elle dénonce une fuite en avant sans se questionner sur le sens donné à son action. Elle montre comment on peut inscrire l'argent essentiellement au service de l'ego, comment on peut en faire un but en soi et le critère absolu de la réussite d'une vie. Pour mieux discerner dans notre relation à l'argent, je vous propose de nous appuyer sur le modèle des quatre polarités de l'être. Ce modèle met en évidence que quatre parties de nous-mêmes peuvent être activées dans notre manière d'être et de faire: la persona, le moi conscient, l'ombre et le soi. Si nous mettons l'argent au service de la persona, nous défendons notre image et notre appartenance sociale, notre statut. Nous risquons alors de rester prisonniers du regard des autres. Nous courons après le prestige, le clinquant, les paillettes, le people, et les désillusions du vieil homme seront sans doute un jour au rendez-vous. Si l'argent est au service du moi conscient, il permet de concourir à la satisfaction de besoins matériels légitimes. Il permet de créer des emplois et ainsi de contribuer à la santé économique de notre société. Cela nous fait découvrir et mobiliser nos talents personnels et professionnels. C'est une magnifique opportunité de se réaliser dans son travail, d'aller dans le monde, s'y aventurer et se dépasser. C'est là une manière de quitter son pays, de sortir de sa coquille, d'évoluer et de grandir. De manière plus ou moins consciente, l'argent peut s'inscrire au service de l'ombre. Or, celle-ci est pétrie de nos peurs. Peur de manquer, peur de perdre, peur du lendemain. Et ces peurs peuvent amener à faire de l'argent une fixation, une fin en soi, le critère majeur de la réussite de sa vie. L'ombre risque d'activer le désir d'accumuler pour se sentir davantage en sécurité. Cela induit des risques de cupidité, de compromission et d'idolâtrie. Un matérialisme excessif fait oublier sa relation à l'absolu, au tout autre, et amène à négliger sa vie spirituelle. Lorsque le soi est présent dans sa relation à l'argent, il amène à se poser la question du sens. Quel est mon besoin ? Quel est mon désir ? Après quoi est-ce que je cours ? Une noble cause ou une illusion ? Comment poser un acte juste ? Est-ce que je sers Dieu ou maman ? Suis-je dans un système de compensation ? Ce qui m'inspire, est-ce une vraie générosité, un réel don de moi-même ? Cela va-t-il nourrir mon chemin spirituel et celui des autres ? La réalité est complexe, mais passer sa relation à l'argent au crible de ces quatre polarités peut être très clarifiant. La Bible dénonce les méfaits liés au poids de l'ombre et invite à inscrire l'argent au service de ce que nous avons appelé le soi. Ainsi, on peut lire dans les évangiles « À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ou bien encore, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. La parabole du riche insensé, racontée par Jésus, est édifiante. Elle dit ceci. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?» Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La parabole du riche insensé vient brutalement rappeler l'échéance de la mort et donc la question de l'au-delà. Elle vient nous dire que c'est aussi dans cette perspective que nous avons à gérer notre existence. Cet homme est qualifié d'insensé car il a de fausses croyances sur la vie. Grâce à ses biens, il pense être arrivé, avoir réussi sa vie, être à l'abri. Il ne reste plus qu'à jouir des plaisirs de ce monde. C'est le triomphe de l'ego. La mort semble bien lointaine pour lui. Et puis, patatrac, changement de décor, il passe de l'autre côté. Ainsi, un enrichissement destiné au seul service de l'ego est vain, illusoire. Il est en contradiction avec la finalité spirituelle de la vie. Faites-vous un trésor inaltérable dans les cieux, dit Jésus. Le plus grand trésor qui puisse s'acquérir dans cette vie n'est pas de l'ordre de l'avoir, mais de l'être. D'ailleurs, qui ne connaît des gens riches qui semblent souvent malheureux et des gens plutôt pauvres qui sont souvent joyeux ? Une fois de plus, nous avons à trouver le juste équilibre entre notre dimension matérielle et notre être spirituel. Cela est résumé dans le livre des Proverbes, où le priant déclare à l'Éternel « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. » Le manque d'argent, la pauvreté peut être une grande souffrance qui est hélas aujourd'hui de plus en plus répandue. C'est une épreuve. Si la pauvreté devient la misère, c'est intolérable. Même les textes bibliques deviennent difficiles à entendre, car ventre creux n'a pas d'oreille. L'épreuve du manque est insupportable pour l'ego, mais une opportunité pour le soi. Prier, demander, accueillir, lâcher prise, louer, remercier peuvent être des agissements de l'âme face à cette détresse. S'abandonner ou tout autre à la puissance de vie, lui laisser toute la place, peut être une grande expérience spirituelle. Encore un paradoxe de la vie. Se battre de toutes ses forces pour lutter contre ses difficultés matérielles et en même temps s'abandonner totalement à la providence. En synthèse, il convient de mettre l'argent à sa juste place. Il est bon de chercher à en gagner, puisque cela invite à mobiliser ses ressources intérieures, permet de s'ouvrir à l'autre, de servir, de donner par son métier plus de sens à sa vie. Cependant, on pourra être vigilant à ne pas être possédé par ses possessions, éviter d'être identifié à son statut social ou à son compte en banque. Et aussi, accueillir des phases de manque comme des opportunités de grandir spirituellement.